Oui, bonjour, ici Jean-Pierre de Seine-et-Marne. Je viens d'écouter l'émission sur les services de sécurité de Carrefour. J'avais quelques doutes sur le devenir de la bassesse humaine. Ben, je me suis tout à fait rassuré. Bravo au dénommé Gaston. Je pense que ce monsieur, dans la société moderne, a encore un bel avenir devant lui. Heureusement que, vu son âge, il n'a pas eu le loisir de dénoncer pendant des périodes troublées son voisin juif, communiste ou résistant. Quant au patron qui utilise de telles méthodes, il y a des jours où on regrette la disparition d'Action Directe. Je vous remercie et encore bravo pour tes émissions. Bye.
Ouais, salut Daniel. Eh ben écoute, elle était belle aujourd'hui, hein, ta brochette d'ordure. On en avait trois pour le prix d'un. Entre Gaston et son copain, qui exécute avec zèle les ordres du chef de la commandature, comme il l'appelle. D'ailleurs, Gaston, tu sais comment on les appelait? Ceux qui exécutaient les ordres de la commandature pendant la guerre? Bah, c'est toi, tu vois. Entre donc Gaston, son copain et sa copine, là, qui signe un faux document pour dénoncer un pauvre bougre en manque du personnel, je me demande comment vous pouvez vous regarder encore devant la glace. Il n'y a qu'une chose qui me réjouit dans tout ça, c'est que vous ayez été viré, vous aussi victime du système pour lequel vous avez collaboré. Car on a toujours le choix, celui d'être libre, digne et non soumis à la tyrannie, quelle qu'elle soit. Voilà, dans l'histoire, c'est vous les ordures, à double titre, en tant qu'exécutant et en tant que balance. Hein, c'est facile de retourner sa veste une fois qu'on a été viré. Voilà, bah Daniel, c'était Cédric du Finistère. J'ai pas pu m'empêcher d'appeler à nouveau. J'avais déjà écouté la première émission, mais là, ça me fait vraiment bondir d'entendre des choses comme ça. Allez, salut à tous.
Oui, bonjour. Alors, je viens d'écouter votre émission au sujet des procédés de harcèlement moral pour faire craquer les employés de Carrefour qui déplaisent la direction ou pour jeter ceux ou celles que les directeurs ne veulent plus. Mais cela marche par la peur de perdre son emploi. C'est ce que semblent dire les employés qui sont prêts à faire le pire contre leurs collègues afin de sauver leur propre place. On voit que cela marche aussi chez les fonctionnaires, les enseignants, qui ressentent la même peur étrange alors qu'on les croit inamovibles. Par peur, par lâcheté, chaque échelon de la hiérarchie obéit aveuglément à son supérieur. Soumission au chef. Et tant pis pour ceux ou celles qui ne peuvent au bout de quelques mois de ce harcèlement que craquer. Dépression, hospitalisation, sanctions disciplinaires pour faute inventée ou énormisée quand on tente de reprendre pied dans son métier. Et même pas de conseils de prud'homme pour être défendu. La plupart des avocats contactés se contentent de dire « Ah, c'est du droit public, je ne connais pas », se demander si ce droit public existe. Voilà, c'est Claire de Toulouse. Merci.
Ouais, bonjour, je suis en voiture et je viens réagir à chaud pour le reportage de Carrefour et Cully dans la région lyonnaise. Je suis moi-même dans la région lyonnaise, j'allais faire mes courses chez Carrefour et Cully. Plus jamais je n'irai donner un centime d'euro à ces gens. C'est abominable. Plus jamais. Tu m'entends bien, monsieur Carrefour et Cully, plus jamais tu verras un de mes centimes. Plus jamais. Et je vais le faire savoir. Je suis outré, dégoûté. Merci à tous de nous dire ces vérités. Et je suis outré. C'est Pierre de Lyon.
Bonjour. Alors, bien, je... Attention, ce que vous allez entendre est abominable. Oui, j'ai volé. J'ai volé à Carrefour, à Casino, à Intermarché, Leclerc. J'ai volé du jambon, du pâté. Alors le jambon c'est bien, il suffit de le mettre sous la ceinture. Et hop, ni vu ni connu. J'ai même volé un livre. Et j'ai même volé beaucoup de livres, des dictionnaires, des anthologies. Dont j'avais besoin pour payer mes études. Et je les ai réussi, ces études. Et ceci dit, je n'ai volé jamais. J'ai volé un particulier. J'ai toujours voler pour manger dans des grands établissements, des grandes enseignes. Et voilà, donc maintenant, eh bien, je suis professeur, j'ai 35 ans, j'élève une enfant et j'en éduque 25, 6 heures par jour, à qui j'essaie de transmettre des valeurs qui sont les miennes, qui sont celles de... qui ne sont pas celles du vol, mais qui sont des valeurs de fraternité et de don de soi. Voilà. Je suis Denis de Montpellier. Merci, au revoir.
Faut pas voler, hein. Oula. Attention, hein, c'est très mal. Dans les grandes surfaces, même dans les petites surfaces, il ne faut pas voler. Hein. Je vous l'ai dit et je vous le redis, il ne faut pas voler. Merci en tout cas pour ces messages, amis modestes et géniaux auditeurs. Et ben aujourd'hui, comme ça vous a plu, ça vous a drôlement indigné l'histoire d'hier. Ouh, aïe, 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 c'est bon. C'est vrai que c'était assez carabiné, mais aujourd'hui c'est tout aussi carabiné, puisque c'est la suite de ces pratiques assez étranges quand même, dans la grande distribution. On a vraiment du mal, hein, entre les, comme ce professeur là, qu'il faut surtout pas copier son exemple, hein, je vous l'ai dit, mais enfin il nous l'a quand même avoué, et puis alors les vendeurs, les vendeuses, espionnage, enfin c'est vachement compliqué, hein. Moi je voudrais pas être gérant d'un magasin Carrefour, hein, même d'un autre, ça doit être un petit enfer. Alors voilà, c'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Anne-Marie de Barbantane. J'écoutais votre répondeur aujourd'hui en me disant que j'allais vous appeler en réaction à l'interview de Madame Parisot de lundi chez Nicolas de Morant. Et puis une de vos auditrices, une amie inconnue, l'a fait pour moi. C'est vrai que ça fait du bien de savoir que l'on n'est pas seul dans son coin à s'indigner. J'ai particulièrement apprécié dans cette interview le passage où la patronne des patrons justifie les licenciements effectués par des entreprises qui font d'énormes profits en bourse. En gros, les patrons sentent que ça pourrait aller mal, qu'ils pourraient gagner un peu moins parce qu'un Indien ou un Chinois va sortir le produit qu'ils fabriquent au moindre coût. Alors, on licencie préventivement pour maintenir les hauts profits. Et dès que l'annonce des licenciements est connue, bien sûr, l'action prend un bonus de X% en bourse. Et lorsqu'elle expliquait, cette charmante dame, que tous pouvaient devenir patrons, quel que soit son milieu d'origine, qu'il suffisait tout simplement de bien travailler à l'école. Ce qui me tue dans le discours de cette personne, c'est son impudence. Elle croit avoir affaire à qui ? Les gens savent lire, écoutent, se documentent, sont capables d'analyse et sont intelligents, même s'ils ne sont pas dirigeants d'entreprise. À force d'impudence et de mépris, la noblesse héréditaire s'est fait guillotiner en 1789. On arrive en 2009, qu'en sera-t-il alors de la noblesse d'argent ? Merci, au revoir.
Bonjour, alors c'est Marie de Haute-Savoie. Donc j'ai entendu aujourd'hui aux infos à Trésor que Nicolas Sarkozy vient visiter à nouveau le plateau des Glières mardi prochain. Donc alors là, ça va poser un petit problème parce que utiliser la mémoire de la résistance alors que pendant ce temps-là, on prend des enfants, on les fait renvoyer dans leur pays par la police au mépris total des droits de l'homme et après essayer d'utiliser la liberté, les gens qui se sont battus pour notre liberté justement aujourd'hui, non, ça colle pas. Alors retrouvons-nous à nouveau comme la dernière fois pour un grand pique-nique de protestation aux méthodes de Sarkozy. Voilà, au revoir et j'espère que vous viendrez nombreux.
Bonjour Daniel, je t'appelle de Savoie. Il y a en ce moment des films qui parlent de la Shoah par balles et je voulais simplement, ça m'a rappelé le choc que j'avais ressenti en écoutant ton émission sur Babillard, il y a de cela assez longtemps, et j'avais réalisé la puissance de votre information. Voilà, merci et continuez, au revoir.
Oui, bonjour, bonjour Daniel Mermet, voilà, j'ai entendu parler que tu voulais faire une émission sur mai 68 dans quelques jours. J'ai une très petite contribution à ce mai 68, j'ai été bidasse bien malgré moi dans les troupes de marine près de Paris, et en mai 68 nous nous trouvions en manœuvre de haute montagne à la frontière italienne, exactement à la caserne des chasseurs alpins de Modane. Nous sommes donc revenus, lorsqu'il y a eu le grand bordel, en camion de Modane à Maisons-Laffitte en une journée, ça fait presque 700 kilomètres. Ensuite, nous avons été consignés en état d'alerte. La caserne était remplie de gendarmes qui venaient coucher là le soir. Et alors, a circulé, sous le manteau, une interrogation. On veut nous faire charger la foule à Paris, des bilas, hein. Et qu'est-ce qu'on fait si on nous fait, on veut nous obliger à le faire? Donc la réponse a été, pour tous ceux que j'ai entendus, unanime, on se retourne et on descend les crevures. Les crevures étant, pour ceux qui n'ont pas fait de service militaire, les gradés. Donc, la contribution est très petite, nous avons tous refusé, mais combien importante quand même pour la survie de notre démocratie à ce moment-là. J'aimerais qu'on pose la question, qu'en serait-il aujourd'hui dans un cas identique? Parce qu'il n'y a plus la plaie. Donc, qu'est-ce que ferait l'armée française aujourd'hui s'il y avait un bordel comme 68? Je te remercie de ton émission, continue comme ça, j'espère que tu les emmerderas bien encore bien longtemps, et moi je continue aussi, j'ai 60 balais maintenant, et je continue comme à 20. Au revoir, salut à tous.
Alors voilà, il est beau hein, ce témoignage. Et bien voilà, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on attend, des témoignages sur la période de mai 68. Je vous le disais hier, on a le projet de faire évidemment des émissions sur ce sujet. On a commencé d'ailleurs, hein. Mais là, on aimerait avoir vos témoignages parce que voilà, les acteurs, les témoins de mai 68 sont encore vivants pour la plupart. Et depuis bientôt 40 ans, cette histoire a été confisquée par une escouade de renégats qui d'ailleurs sont très en vue et à cause de ça d'ailleurs, et qui sont les propagateurs de l'impuissance, de la résignation. Et qui disent, bah voilà, nous on a fait ça, mais on peut vous dire qu'il n'y a pas d'alternative, qu'il n'y a rien à faire. There is no alternative. Alors que c'est pas si sûr que ça, quand même. C'est pas si sûr. Et je suis sûr que parmi ceux qui ont vécu cette époque de près ou de loin, en France, il doit y avoir des quantités de témoignages qui dorment comme ça dans les mémoires et qui ne demandent qu'à se réveiller. Vous avez le numéro du répondeur de la base, et j'y suis, c'est 01 56 40 37 37. Et puis je voudrais remercier cette auditrice qui a une bonne mémoire, effectivement. Il y a pas mal d'années, j'essaye de rechercher, je pense que c'était 1993, il y aurait 15 ans donc, avec Zoé Varier, nous avons effectivement fait des reportages à Kiev, en Ukraine, et nous avions fait une série de reportages, enfin de témoignages en tout cas, sur les massacres de Babi Yar, qui est un lieu à côté de Kiev, où au début de l'offensive de la Wehrmacht dans cette région, la communauté juive a été éliminée dans ce vallon de Babi Yar. Et on a eu des témoignages de gens qui n'avaient jamais témoigné, qui n'avaient jamais raconté ça, et qui ne se l'étaient jamais raconté parmi les survivants. Et les mots venaient au fur et à mesure, et c'était un des moments les plus bouleversants peut-être de ces années de reportage à travers le monde. Merci d'y avoir pensé. Donc, Carrefour, ah en positif, encore quelques messages.
99 milliards d'euros de bénéfices pour les grandes entreprises françaises du CAC 40. On est au bord de la récession et les caisses de l'État sont vides. Alors du coup, la Banque centrale fait tourner la planche à billets pour injecter des liquidités dans la machine économique, 200 milliards de dollars, pas un de plus. Et puis, bon, après la crise de l'immobilier, la crise des entreprises, avant le krach, des rumeurs de guerre contre l'Iran qui ne renonce pas à son programme nucléaire. Et on se demande à quoi servent les récessions. Peut-être à faire des ouvriers désœuvrés au chômage des soldats, comme en 1942. À part ça, les grandes marches européennes contre la précarité, le chômage, l'exclusion et la misère ont échoué entre 1995 et 1998. Alors, j'ai mon petit proverbe quotidien, je reste optimiste parce que de ne pas l'être me déprime. Allez, bonne journée, merci à tous et bonne continuation, au revoir.
Bonjour, je vous laisse un message de la part du collectif d'aide aux sans-abri à Nice. Samedi 15 mars prendra fin le moratoire sur les expulsions dans les Alpes-Maritimes. Les familles se retrouveront désormais sans logement et viendront s'ajouter aux déjà trop nombreux sans-abri. C'est la raison pour laquelle nous organisons, vendredi 14 mars, à partir de 18h, place du Palais de Justice à Nice, un repas de solidarité festif et musical de soutien aux sans-abri. Le but est que chacun apporte un plat à partager et demande aussi à ses voisins, son épicier, son boulanger ou son restaurant préféré de participer. Les musiciens sont bien évidemment les bienvenus. Ce repas de rue est organisé dans le but d'interpeller tous ensemble l'opinion et les pouvoirs publics afin qu'une véritable politique du logement social soit enfin mise en place à Nice et ailleurs et que les engagements pris envers les plus démunis soient respectés, notamment le droit au logement opposable. Merci de venir nombreux et à vendredi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu et Gwenaël de Bretagne et on veut réagir par rapport à l'émission sur Carrefour là. Nous, acteurs des supermarchés, nous les dépouillons tous les jours de plus en plus et quand on entend des émissions comme ça, on est bien content de le faire et on trouve ça honteux. Le droit à la bonne bouffe est un droit universel et devrait être gratuit. Merci et que ça continue et que tout le monde le fasse de plus en plus.
Et c'est même pas le droit à la bonne bouffe, c'est juste avoir le droit de bouffer un peu de viande tous les jours si t'en as envie.
Merci. Voilà.
Salut Daniel, continue.
Oui, bonjour Monsieur Daniel Mermet et tous les auditeurs là-bas si j'y suis. Bon, c'était pour faire un petit coucou à tous les routiers, à tous les mecs qui dorment le soir tout seul dans leur camion. Et aussi pour rappeler le numéro du répondeur. 01 56 40 37 37 01 36, 40, 37, 37. Bonne soirée à tous, c'était Smaïn.
J'ai une tendance à aimer le reportage, l'investigation, les choses comme ça. C'est un truc que j'aime. Donc après, quand on me demande de faire de l'investigation, ouais, je vais le faire parce que j'aime ça.
Donc finalement, les journalistes qui trouvent pas de boulot aujourd'hui peuvent devenir agents de sécurité chez Carrefour. C'est une piste pour l'emploi.
Ben ouais, c'est clair.
Troisième semaine du mois Carrefour. Et chaque jour, des surprises offertes spéciales 40 000 personnes. Chez
vous, le mois Carrefour. Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec François Ruffin, une heure positive.
Flight number 2, arriving from...
Qu'est-ce que ça fait avec Carrefour? Je vais vous dire, mais attention, le mois Carrefour, ça ne dure que 30 jours.
Donc là, on se trouve dans le premier étage du magasin Carrefour, avec le magasin qui est devant nous. Là, il y a le rayon frais en dessous, le rayon lait.
Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes dans l'entreprise?
Qu'est-ce que je fais dans l'entreprise? Je fais un reportage. Je suis en reportage sur les caméras de sécurité, les filatures cachées.
Vous n'avez rien à faire ici, monsieur.
Pardon? Mais vous étiez au courant de ces caméras cachées?
Je viens de vous donner mon sentiment. Pas de réaction, monsieur.
Vous n'avez pas de réaction du directeur?
Non.
Et les filatures?
Au revoir, monsieur.
La manière dont on a fait pression sur les...
Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.
Oui?
Au revoir.
Mais attendez, je cherche à discuter avec...
Non, monsieur, vous êtes dans un espace privé, donc au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.
Vous savez, c'est le travail de la presse d'avoir...
Voilà, le travail de la presse, c'est juste derrière la presse.
Voilà, merci. Venez. Vous êtes dans la violation d'un domicile privé. Alors. Vous sortez, s'il vous plaît. C'est un magasin Carrefour. Je fais mes courses chez Carrefour tout le temps.
Ça ne vous empêche pas.
Et j'ai été déçu quand j'ai appris ça ici, vous savez. Ça m'a fait...
Pas de commentaire, parce bien, monsieur.
Il y a un lien quasiment affectif qui se fait avec son magasin.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur. Voilà, on lui avait dit, il faut remonter le... Moral des ménages, François, tu vois, le moral des ménages est en baisse. Il faut des reportages positifs, François, tu vois, il faut positiver. Et alors, il s'est dit, bon, un positif, dans sa tête de reporter, de jeune reporter, il faut bien dire, il s'est dit, voilà, je vais aller chez Carrefour, puisque chez Carrefour, on positive. Et puis, hier, il y a eu le reportage que vous avez entendu dans ce magasin Carrefour à Écully, avec les témoignages qui ont stupéfiants. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ces histoires. Effectivement, suite à des différents reportages diffusés sur France 2, sur dans le quotidien L'Humanité, Carrefour a lancé un audit et on est tout à fait ouvert à aider Carrefour dans cet audit, à donner des éléments d'informations qui seront peut-être utiles pour faire toute la lumière sur les pratiques assez singulières dans ce magasin, en tous les cas dans ce magasin Carrefour d'Écully. C'est là si j'y suis, et c'est positif.
Cet été, votre carte Carrefour vous suit dans toute la France.
27 en direction du Nord.
Donc là, on se trouve dans la voiture de Régis Sérange, ancien vigile à Carrefour. On va se rendre chez lui. Donc c'est pas loin de Vienne, dans l'Isère. Et comment vous êtes entré là-dedans, comme agent de sécurité à Carrefour, voilà.
Après un licenciement, j'ai fait de la recherche d'emploi et puis j'ai envoyé des CV dans les sociétés où il est le plus facile de trouver des petits jobs. Pour faire de l'alimentaire, j'avais besoin d'un salaire pour trouver du taf tout de suite. Et puis ça a été le cas, j'ai envoyé des CV et puis j'ai été reçu dans un Carrefour de la région lyonnaise. Là.
Donc là on passe sur le Rhône, sur un pont qui se trouve sur le Rhône. Donc vous êtes embauché très rapidement.
Bah, j'ai eu un entretien avec un chef de la sécurité à Carrefour et puis après l'entretien il m'a dit bah, vous commencez demain. L'après-midi je suis allé à la société récupérer une tenue, mon badge, signer mon contrat et le lendemain j'étais au magasin. J'étais censé faire un travail d'arrière-caisse, c'est-à-dire qu'on est derrière les caisses toute la journée et on répond aux besoins éventuels des caissières, c'est vous faites le planton toute la journée. Et la période des fêtes approchant, il avait besoin, le chef sécurité avait besoin d'un personnel supplémentaire au niveau des agents prévol.
C'est quoi la différence entre agent de sécurité et agent prévol en fait?
Ouais, ça peut rien avoir que vous êtes déjà plus en uniforme, vous êtes en civil, vous êtes chargé de surveiller la clientèle dans le magasin, aux caméras. C'est plus une mission d'investigation, c'est quand même plus intéressant que de faire le planton, quoi. J'ai appris le maniement des caméras, j'ai appris à filer, j'ai appris on traque les gens, on surveille. Tout de suite, j'ai pas été mis au courant de tout. Hein. D'ailleurs, même j'ai travaillé dans le local vidéo, je savais même pas qu'il y avait des caméras cachées. Hein. Et puis après, on me l'a expliqué plus ou moins. Et puis ouais. On est venu à me demander, par exemple, un après-midi, par exemple, j'arrive au magasin, hop, on m'amène dans un chapiteau, on me présente un grand carton, une palette, on met dans le carton, et puis on m'amène sur un tire-pal dans une réserve, on me met au sommet d'un rack, et j'ai passé 2h30 de l'après-midi à 9h30 le soir, caché dans un carton, surveillé personnel dans les réserves. Avec le risque de se casser la gueule parce que vous êtes dans une position quand même hyper inconfortable pendant 7 ou 8 heures de suite.
Donc ça, votre promotion, c'était, après avoir été agent de sécurité, c'est de pouvoir passer 7 heures dans un carton à 4 mètres du sol.
Bah, c'était peut-être le prix à payer pour avoir un meilleur salaire, quoi.
Bon, vous habitez à côté d'une voie de chemin de fer.
Oui. Allez-y.
Alors c'est pas Régis que le scandale est arrivé, c'est son témoignage qui a déclenché effectivement tout ça, comment il est passé d'agent de sécurité qui doit fliquer et observer les clients, souriez, vous êtes filmé, et comment il est passé de ça à surveiller le personnel en se planquant dans un carton, enfin à des mètres, enfin toute une technique de flicage, ça correspond à ce que nous a dit Gaston hier, qui est évidemment un copain de Régis.
D'abord, vous avez été agent de sécurité normal à faire le planton derrière les caisses. Ensuite, vous avez été mis agent prévol. Mais visiblement, on vous faisait encore qu'à moitié confiance puisqu'on vous disait pas qu'il y avait des caméras qui étaient pas déclarées.
Je pense qu'il y a une période test. Je sais pas si Gaston est au courant ou pas, mais moi j'ai bien sûr soupçonné que qu'entrant dans le sein des seins du magasin, j'allais pas être mis en confiance tout de suite, c'est clair.
Je te coupe la parole, Régis. Chef sécurité, au départ, il nous a dit voulait montrer que l'essentiel du magasin. Le reste, on le découvrira, il le découvrira par lui-même, mais un peu plus tard. Et les caméras cachées, on te donnait pas les bons numéros, quoi, les codes, quoi. C'était deux chiffres, c'était tout bête, mais bon, il fallait savoir qu'il fallait taper deux numéros au-dessus de 59 ou au-dessus de 60. Et comme il le savait pas, il était pas au courant. Lui, il faisait que la surface de vente, quoi. Et il disait, ben, je comprends pas, vous arrivez à faire du personnel et tout, ben, oui, ben, on surveille, on reste pas toujours le cul sur une chaise dans le bureau, dans le local vidéo, quoi.
Quand j'ai eu fait mes preuves et que la confiance s'est installée avec le chef sécu, il m'a tout de suite demandé si j'étais OK pour une mission sur la région de Reims. Il m'a dit, voilà, on a une équipe qui est soupçonnée de commettre des délits dans le magasin. On a besoin de quelqu'un pour infiltrer le magasin. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, sur le fond, ça m'intéressait, ouais, c'est clair. Et puis, comme il y avait la carotte au bout, c'est-à-dire que on me promettait une embauche comme cadre et tout, j'ai dit, ben ouais, y a pas de souci, quoi. Je vais le faire. C'était un directeur national qui m'a présenté l'affaire.
Donc là, ça veut dire que la direction de Carrefour est au courant?
Bah, tout au moins certains responsables.
Et comment ça se passe, la mission d'infiltration?
Ben, j'arrive, je suis présenté comme étant un cadre de chez Carrefour, hein, et j'ai totale carte blanche sur le magasin, je fais ce que je veux. Je peux aller dans tous les secteurs du magasin, m'informer, voir ce qui se passe, comment ça marche, expliquer aux gens qu'en fait je suis là pour apprendre tout le fonctionnement d'un magasin. Donc là, j'ai accès partout et je m'infiltre partout et je parle avec tout le monde. Et bon, au bout de 8-10 jours, ben, les langues commencent à se délier, j'utilise des surveillances vidéo. Je vais cacher les caméras dans les réserves, je vais planquer la nuit dans le coffre des voitures pour surveiller les allées et venues du magasin. Je vais me cacher dans le magasin la nuit, dans des endroits où il n'y a pas de détecteur, pour voir ce que fait le personnel de sécurité la nuit. Je vais faire des relevés de numéros de téléphone pour savoir qui ils appellent, ce qu'ils font. Je vais les suivre chez eux pour voir s'ils déchargent la marchandise ou pas. Je vais...
Toi, là, c'est le Nestor Burma de chez Carrefour, quoi, un peu, quoi.
Ouais, c'est ça, ouais. Non, et puis j'étais plus dans un cadre légal, là, parce que moi, j'étais prestataire de service, j'étais pas Carrefour, donc j'étais déjà équipé Carrefour. J'ai appris récemment qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient été innocentées, hein. Parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup d'infos par des gens du magasin, et dans ces gens-là, il y avait certainement des rancœurs personnelles, donc ils ont balancé des trucs qui étaient faux, et...
Donc ça a fonctionné moins avec des preuves matérielles qu'avec de la délation, quoi, finalement.
Avec de la délation, ouais, parce que moi, la brigade de recherche de gendarmerie s'est basée sur un rapport que je leur ai remis. Donc à partir de là, ils ont mené une enquête à partir de ce rapport-là. Mais dans la foulée, on en a profité pour me faire un portrait, par exemple, du chef sécurité du magasin, comme étant le pire des salauds. Et ce mec-là, il est tombé avec les gens, on l'a viré pour... On l'a licencié pour vol en réunion, une chose comme ça, vol en bande organisée. Il a été licencié, il est à 6 mois de la retraite. C'était un mec qui coûtait très cher, donc, parce qu'il avait plus de 30 ans de boîte. Et il est tombé avec tout le reste de l'équipe, puisqu'on a fait en sorte que je l'implique dans l'enquête. Et j'ai appris récemment que cette personne avait bénéficié d'un non-lieu, puisqu'elle n'était absolument pas impliquée dans les vols et les détournements de marchandises. Donc là, il y avait d'un côté un réel problème de détournement, mais on y a inclus des gens qui coûtaient cher et dont on voulait se débarrasser.
Carrefour vous suit dans toute la France. Carrefour.
Donc là, tu reviens de ta première mission à Reims, c'est un triomphe.
Non, même pas, on me félicite, ouais, c'est clair, je reçois une lettre de félicitation d'un directeur, et là, je me dis, putain, mon contrat, il va tomber, quoi, mais que dalle, il n'y a rien qui tombe.
Ton contrat de cadre chez Carrefour, ouais, hein.
Là, il n'y a rien qui tombe. Donc, je me dis, merde, bon, on me dit, faut patienter, faut attendre un peu, il n'y a pas de souci, ça va venir. On a eu l'histoire du sous-marin dans la foulée.
Du sous-marin, quel sous-marin? C'est plus Nestor Burma, c'est plus James Bond, maintenant c'est Capitaine Nemo.
Ouais. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour, il avait été installé des caméras cachées à la station essence du Carrefour Aculi. Et sur le parking du personnel qui se trouve en terrasse, on avait un camion équipé de magnétoscopes, télé, d'écran, avec un récepteur HF, et on captait les images qui étaient diffusées depuis les cabines de la station qui se trouvait à 400 mètres de là. Donc là, pendant plusieurs semaines, on a planqué dans le camion à surveiller les gens de la station pour savoir si jamais ils volaient de l'argent, s'ils laissaient passer des voitures, pour savoir ce qu'ils faisaient, quoi.
Et donc, qu'est-ce que ça donne, cette mission?
On n'a pas eu de grivellerie, on n'a rien eu. Aucun. Au bout d'un mois et demi, ben, on a arrêté le sous-marin.
Ça doit être la personne en question, d'ailleurs.
Alors là, vous avez un ordinateur portable devant vous. Là, on voit une dame à une caisse.
Ah oui, je tenais à avoir des preuves concrètes, quoi, parce que... Ouais, c'est dans la station essence, donc la caméra est cachée au-dessus d'elle. On a les voitures qui passent ici, donc on peut voir s'il y a un paiement ou pas. Là, on a les manipulations d'argent. On peut voir aussi si elle passe son temps à téléphoner à ses copains, ses copines, si elle bosse vraiment ou si elle glande. Ou... Là, c'est le sous-marin.
Donc ça, c'est l'intérieur du camion.
Donc ça, c'est un véhicule. Hein. Vous avez des batteries pour alimenter le matériel et on reçoit les images par une antenne qu'on a placée sur le camion.
Je pense pas que même le FBI il travaillerait pas comme ça. Quand on faisait des missions comme ça, on se croyait, je sais pas.
De toute façon, à aucun moment on n'est habilité à faire ça. De toute façon, c'est un travail de police judiciaire, donc c'est des gens assez remontés hein, qui font ça.
Donc tout ça pour surveiller une caissière de. Ouais, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas pour surveiller du trafic de drogue ou de l'héroïne qui passerait ou bien. Enfin,
tout ça, tout ce matériel, était payé par Carrefour pour 30 € ou 50 € de grivellerie. Par semaine ou peut-être par mois, puisque pendant un mois et demi, on a travaillé et on n'a jamais vu quoi que ce soit.
Parce que là, il y a un investissement important. C'est du matériel qui coûte très cher. Il faut se dire que du matériel qui a une portée de 400 ou 500 mètres, c'est pas donné. C'est l'exemple d'un truc de fou. On est dans une BD, quoi. C'est un roman, quoi, ce truc-là. Quelle personne irait imaginer aujourd'hui qu'un magasin surveille son personnel dans des conditions pareilles?
Et il y a une jouissance en même temps à se retrouver dans un camion, à faire un truc que jamais dans son enfance on aurait imaginé faire.
Une jouissance, non, mais on se prend au jeu. On est aussi un peu un instinct chasseur. On se dit, ouais, on va arriver à faire quelque chose.
Être chasseur, je peux comprendre, mais quand vous voyez que la personne que vous avez à chasser, c'est une pauvre agent de caisse qui doit péniblement gagner le SMIC.
Ça, vous en êtes pas sûr. Parce que quand on vous présente les gens, on vous les présente comme des pourris. Donc, on agit toujours dans l'éventualité où ces gens-là soient des pourris.
Vas-y.
Allô?
Chez Carrefour, depuis 40 ans...
C'est la première mission, Reims. Deuxième mission, le sous-marin sur le parking de Carrefour. Ouais. Troisième mission...
Je suis parti dans un magasin de l'île d'Abo. Et juste avant de partir à l'île d'Abo, comme je revendiquais encore mon contrat auprès de mon chef sécu, il m'a dit, t'inquiète pas, là tu vas être convoqué, on va te faire passer des tests pour être cadre, je sais pas quoi. Donc j'ai été convoqué à la direction régionale de Lyon. À l'issue de cet entretien, ouais super, tu seras cadre, il n'y a pas de problème et tout. Donc c'était encore un petit peu pour me faire miroiter, je ne sais quoi. Ensuite, je pars à Douai. Le chef sécu avait une maîtresse dans sa vie. Il fallait le prouver pour avoir un moyen de pression supplémentaire sur lui. Donc je vais chez lui, je le filme. Parce que lui, il va dire à sa femme qu'il bosse jusqu'à 22h par exemple, et puis à 20h, il est déjà parti du magasin. Et donc ça, c'est des éléments qui permettent de faire de la pression, quoi.
Il y a les clients de chez Carrefour qui sont contrôlés par les caissières. Il y a les caissières qui sont contrôlées par les agents prévol. Il y a les agents prévol qui sont contrôlés par les responsables sécurité. Et toi, t'étais celui qui contrôlait les responsables sécurité.
Les contrôleurs.
Mais oui, t'es des contrôleurs. C'est un immense système de surveillance qui est en fait mis en place.
Ouais, c'est clair. C'est du flicage. Hein. C'est ni plus ni moins du flicage. Tout est fliqué. J'ai eu à intervenir après dans le sud de la France quand on m'a présenté le dossier du mec à surveiller. On m'a quand même amené des éléments hyper perso, quoi, relevé de banque, RIB, adresse de la femme, société de la femme. Moi, on m'a filé ça. Ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui enquêtent à d'autres niveaux. Quoi.
Là, t'as ouvert ton ordinateur. Il y a des petites icônes qui apparaissent. Donc, c'est la personne que tu filais.
Donc là, je suis devant chez lui et j'attends qu'il sorte. Mais je vais te faire voir. Par exemple, je le file dans Lyon. Il est avec un pote, il sort d'un restaurant.
Donc là, tu le montres sur l'écran.
Là, il est en maladie, il est en arrêt maladie. Donc
il n'est pas supposé être dans Lyon, il doit être chez lui à cette heure-là.
Voilà, ouais. Là, c'est pareil, il est en terrasse, bon ben voilà.
Et c'est un boulot de con un peu? Puis c'est un mec qui est en arrêt maladie, et quand tu le fais, tu penses quoi?
Je pars sur un truc neutre, où il y a un mec qui baise la société, Et où il faut le virer.
Mais toi, t'es amoureux de Carrefour ou quoi pour parce que.
Mais je suis pas amoureux. J'attends. Non, faut pas dire ça. J'attends ma carotte.
Non, parce qu'on pourrait se dire.
Moi, j'attends une carrière.
Il y a un mec qui baise la société Carrefour. J'en ai rien à foutre. Tant pis pour la société Carrefour.
Oui, mais j'ai deux choses. J'ai pas le choix dans la mesure où j'attends la carotte, où je me dis qu'au bout du travail que je fournis, on va me filer une carrière. Une carrière, c'est 10 ans, c'est 15 ans. C'est une carrière, quoi. Je veux dire, moi, jusqu'à un certain moment, je vais avoir du taf, je vais assumer ma famille, je vais payer mes crédits. Non, moi, je pars sur ma carotte. Et puis, de toute façon, on me le répète souvent. Parce que quand on me dit, tu pars dans 48 heures à Reims ou à La Ciotat ou ailleurs, quand on me dit, tu pars dans 48 heures, j'ai une famille, faut que je m'organise. Attends, si t'es pas d'accord, tu peux pas rester chez nous. J'ai un exemple à Carrefour et Culli, où quand on m'a filé la cravate de cadre.
On t'a remis la cravate de cadre, c'est quoi ça?
Bien sûr, ça veut dire qu'on m'a remis la cravate bleue Carrefour, de cadre, quoi. Et officiellement, le chef sécu a dit à tout le monde, maintenant, Régis fait partie de vos supérieurs. Je prends toutes les responsabilités. Et on me dit, mais attention, le chef me dit, par contre, t'en parles pas à ta boîte parce que pour l'instant, le contrat est pas là. Bon, voilà.
T'étais fier d'avoir cette cravate ou?
Je dis, c'est un aboutissement, mais au bout du compte, c'était un leurre. Non, je me suis fait loser, quoi.
Qu'est-ce qui se passe? Tu reviens avec cette pièce-là?
Non, je reviens pas justement parce que là, je remets le rapport et les vidéos au chef sécu. Et puis, je suis lourdé du magasin. Il a pas de travail pour moi. Je lui envoie une lettre en mettant une photo compromettante, une photo du sous-marin.
J'envoie une photo du camion posté sur le...
Ouais, moi aussi, je fais le chantage. Je dis, voilà, moi, si j'ai pas mon poste, je te balance. Et là, il vient chez moi, il me menace. Il me dit, si tu tiens à ta famille, ta femme, tes enfants, tu fermes ta gueule parce que si moi je suis viré, j'ai plus rien à perdre. Et je lui explique qu'on me menace pas et que j'irai jusqu'au bout. Et en 48 heures, on me trouve une place de cadre à Paris. On me fait signer un contrat comme cadre stagiaire avec 3 mois de période d'essai. Sur les 3 mois de période d'essai, on m'a quand même fait filer un couple, on m'a fait filer une personne, enfin, on m'a demandé des trucs assez particuliers aussi. Il y avait un cadre dans le magasin qu'on voulait shooter, il y avait une cadre qui avait eu un bébé qui était en congé maternité qui devait revenir. On soupçonnait ce cadre-là d'être le père de l'enfant de cette femme, donc il fallait que je prouve qu'ils avaient une relation entre eux deux pour pouvoir en dégager l'un des deux. Et au bout du compte, il y en a un des deux qui a dégagé.
Et simplement parce que les gens chez Carrefour n'avaient pas le droit d'être tous les deux en couple.
Voilà. Et au bout des 3 mois d'essai, on me dit, non, vous êtes pas compétent. Et là, on me dit, t'es pas compétent, on met un terme à ton contrat. Et après, on m'a jeté. On m'a jeté, et puis voilà, et puis terminé.
Mais tu pouvais pas être surpris, puisque toi, t'avais pratiqué ça, pendant...
J'ai pas été surpris dans la mesure où j'avais commencé à me préparer à ça. Parce que je me suis dit, si ça arrive aux autres, ça m'arrivera un jour. Et à partir de là, j'avais commencé à constituer des preuves. Parce que j'ai dit, un jour, ça m'arrivera. Un jour, on me dégagera. Je savais pas comment. Mais je savais qu'un jour, on me dégagerait. Donc, j'ai dit, à partir de ce moment-là, je garde tout ce qu'on me donne, je le garde. Et je m'en servirai.
Et t'as gardé quoi? T'as gardé le matériel, par exemple?
Ouais, j'ai gardé le matos.
Il est où, le matériel?
Il est sous tes fesses.
Il est sous mes fesses? Et qu'est-ce qu'il y a, alors? Donc, il est sous la banquette.
Je vous lève?
Ouais.
Là, tu sors une pièce.
Je sors une pièce. Par exemple, là j'ai une micro-caméra HF.
Donc, c'est une micro-caméra sans fil, mais c'est vraiment un petit truc qui vient 1 cm de côté sur.
Ouais, c'est 1 cm3. L'objectif, c'est ça. C'est couleur avec son, bien sûr. Ça, c'est le transmetteur. Ça, c'est le récepteur. Donc, il y a un transmetteur dans les caméras, le récepteur qu'on branche sur une télé magnétoscope. Il y a ça qui sert pour les bureaux.
Donc ça, c'est un petit téléphone portable.
Voilà, ça, on s'en sert dans les bureaux pour surveiller les gens. On le pose sur un bureau. Personne n'est censé toucher votre téléphone. Donc là, il y a la caméra. L'objectif, il est là. Et comme ça, j'ai une vue d'ensemble sur tout le bureau et voir ce qui se passe.
Donc c'est-à-dire que c'est un téléphone portable, mais en fait, à l'intérieur, c'est une caméra, quoi.
Voilà. Ouais, j'ai une cassette. J'ai récupéré ça parce que c'est un dimanche où on posait des caméras, donc j'ai fait des photos de nous en train de poser des caméras quand même avec les dates et tout. Parce que fallait un maximum d'éléments.
Et dans les autres magasins où t'es passé,
ouais.
Tu sais si les gens ils travaillaient avec des caméras cachées de la même manière qu'à EQI?
Partout. Partout où je suis passé. Partout où je suis passé, il y avait des caméras.
Des caméras qui n'étaient pas déclarées.
Ouais, partout.
Voilà, c'est un témoignage, celui de Régis Sérange. Alors, mais qui est vraiment ce Régis? Explication.
Tu vois, je suis photographié avec une mitraillette. Et sur la photo, j'ai fait Hasta siempre el comandante. C'est ma mentalité, quoi. C'est la révolution.
Toi, ta mentalité, c'est la révolution?
Ouais, bien sûr. Je suis un révolutionnaire.
Là, tu sors des livres de la bibliothèque.
Ouais, voilà. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est Le Che, Buenaventura.
Alors, Durruti, c'est la guerre d'Espagne. Voilà. Le Che,
bon, c'est tous ces trucs de révolutionnaire, quoi. C'est.
Mais alors, comment ça se fait qu'un révolutionnaire, se mette plus au service du capitalisme que tu l'as fait? C'est difficile à imaginer.
T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que y a rien d'autre qui s'offre à toi. T'as besoin de bouffer, hein, tout simplement. Puis que le jour où t'es au chômage, tu peux. Moi, personnellement, je peux pas rester à la maison rien foutre.
Et c'est parce que t'entrevoyais pas la possibilité d'avoir un salaire aux alentours de 10-12 000 balles ailleurs qu'en faisant ça.
Bah difficilement aujourd'hui, une place à plus de 10 000 balles, il y en a pas beaucoup. Hein. Surtout quand on n'a pas de qualif, surtout quand non, c'est quasi impossible. Donc j'avais ça qui me permettait de vivre décemment, quoi. Quand on me l'a enlevé, ouais. Et puis j'ai une tendance à aimer le reportage, l'investigation, les choses comme ça. C'est un truc que j'aime. Donc après, quand on me demande de faire de l'investigation, ouais, je vais le faire parce que j'aime ça.
Donc finalement, les journalistes qui trouvent pas de boulot aujourd'hui peuvent devenir agents de sécurité chez Carrefour. C'est une piste pour l'emploi.
Ben ouais. C'est clair.
Tu crois qu'il y en a beaucoup des gars qui se rêvent Che Guevara et qui sont chefs de rayon au bricolage à Carrefour?
En tout cas, il y en a beaucoup qui perdent le sens de la création, ça c'est clair. Aujourd'hui, on est dans une société pourrie et moi, ça me branche plus. Tu vois, moi, j'ai un taf aujourd'hui et ils le savent et ça les fait bien chier parce que je suis toujours dans leur groupe par le biais d'un petit magasin. Quand je vois des caissières qui gagnent 700 euros par mois ou 800 euros, je me dis que si ces nanas-là, aujourd'hui, ben, elles ont rien à bouffer et qu'il faut qu'elles aillent piquer du jambon, ben c'est plus mon problème. Je vais peut-être interpeller la personne, mais je vais pas appeler les flics pour le faire menotter, l'emmener et machin. Lui faire traverser un magasin avec les menottes et l'humilier, si et ça. Parce qu'à la clé, il y a quoi? Il y a un gamin qui attend la bouffe, il y a des gens qui arrivent plus à payer leurs factures, et stop, quoi. Stop. Il y a 2-3 ans en arrière, même quand j'étais chez Carrefour, les gens, ils arrivaient à piquer du maquillage, des CD, sur 90% des interpels que je fais aujourd'hui, c'est des gens qui piquent à bouffer. Donc il y a quelque chose qui a changé. On n'est plus en train de piquer
du luxe.
On est en train de piquer du vital. Ça commence à me déranger. Donc il est peut-être temps aussi que je change de boulot, quoi. Parce que si je suis plus capable de les planter, ben c'est que je suis plus fait pour ça. Donc basta.
Alors là, on se trouve au carrefour des QI, on se trouve dans le local syndical, et on vient ici. Alors apparemment, ici, dans ce local syndical, d'après ce que m'ont expliqué deux anciens agents de sécurité, il n'y aurait pas que les auditeurs de France Inter qui nous écouteraient. Il y aurait d'autres micros dans cette pièce.
C'est vrai qu'on est écouté. Il y a eu même les téléphones, certainement il y a eu un micro de cachet, parce que une ou deux fois, quand j'appelais l'inspection du travail, le directeur, le lendemain, il était au courant, comme par hasard. Donc, puis ils sont venus une ou deux fois faire les travaux vers les 22h30 du soir pour poser deux vis. Donc,
c'était une mesure de sécurité, c'était pour pas que la table se casse la figure ou quelque
voilà,
chose.
Voilà, certainement. Et bon, le soir, la journée, ils pouvaient le faire, ils ont refusé. J'ai proposé de le faire la journée, s'il y avait quelque chose à faire, ils ont refusé. Ils m'ont dit non, on le fait que le soir. Donc, Je savais qu'on était espionné parce qu'à chaque fois qu'il y a un salarié qui rentre, comme par hasard, il est convoqué par son manager métier. Pourtant, je regarde dans le couloir, il n'y a personne pour y voir. Donc, il y a une caméra, je pense qu'il est en face. Il doit bien...
Alors là, vous pensez qu'il y a une caméra derrière, juste
en face là-bas.
Où ?
En face. Il y a une grosse boule noire. Hein. Et je pense qu'elle donne directement ici.
D'accord. Donc là, si on fait signe par la fenêtre, on dit bonjour à la sécurité, vous pensez ?
Sûr.
Et vous étiez au courant depuis longtemps qu'il y avait des caméras cachées dans ce magasin ?
Oui, non, mais on le savait, mais quand même pour les identifier, on avait du mal parce qu'on cherchait une personne qui était capable un petit peu de, avec un appareil de localiser, on avait du mal à trouver la personne. Donc après, de temps en temps, on oublie. Et puis, non, parce que je connaissais des personnes, ils m'ont dit qu'il faudrait l'acheter dans un magasin de surveillance, je crois, qui vendait des appareils spéciaux pour tenir les micros.
Donc il y a l'espionnage et vous avez voulu monter un service de contre-espionnage, quoi.
Oui, c'est un peu... C'est pareil, en 2002, il y a eu une affaire où vous avez mis une caméra à l'épicerie. Donc, parce qu'il y a une personne qui a été convoquée pour une sanction disciplinaire. Et on lui a dit, vous avez mangé un yaourt dans les WC. Et puis, deux jours ou trois jours après, il y a le chef d'entretien qui va dans les WC là-bas. Et puis, ils voulaient faire des travaux, certainement. Et puis, ils ont enlevé une dérivation. Ils ont trouvé une caméra minuscule.
Une caméra dans les WC.
Dans les WC.
Dans les WC, ouais. On voyait tout le monde à poil, alors, à la sécurité.
Oui.
Et donc, tout ce qu'ils ont réussi à trouver avec ça, c'est quelqu'un qui avait mangé un yaourt.
Ouais. Ah, parce que l'ancien directeur, il soupçonnait que les gens, ils mangeaient des saucissons, ils buvaient, c'était un peu...
Il pensait qu'il y avait un buffet froid permanent dans les toilettes.
Voilà. C'est pour ça qu'il a mis une caméra.
Souriez, vous êtes filmé. C'était un reportage de François Ruffin. Merci à tous. Merci à Christelle Chabot, Régis Serrange, Gaston, Claudette Montoya, Mohamed Kendou et à tout le monde. Et d'autre part, nous vous signalons que ce soir à 23h10, France 2 diffusera un documentaire de Paul Moreira et Virginie Reuls, Travailler à en mourir sur la souffrance au travail. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission de la base où j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. La technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Pascal Baldassari, Yann Chouka et Colline Guyenne ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry. Et Christophe Humbert attend vos messages sur le répondeur de la base où j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et n'oubliez pas, c'est très mal de voler.
réclame.